La première, démocratie en question, Arnaud Reussen.
Je ne suis pas sûr que la démocratie aille mieux qu'il y a 3 ans.
Le bilan est assez catastrophique. La présidence Trump a contribué à miner les démocraties occidentales au niveau mondial et à soutenir les ennemis de la démocratie et les régimes tyranniques.
Nous sommes face à une crise de l'offre et pas de la demande. Je veux dire par là que j'ai le sentiment que les citoyens sont extrêmement demandeurs de plus de démocratie, de plus de participation à la décision politique. Donc la demande est là, c'est plutôt au niveau de l'offre qui leur est faite que le bât blesse.
Bilan très mitigé, inquiétude colossale, oui, petit brin d'espoir aussi.
Prologue, 3 ans plus tard.
C'était à l'été 2018. Avec Jonathan Remy, on vous avait proposé une série sur la crise de la démocratie en allant voir toute une série d'experts, de philosophes, économistes, historiens, juristes. On avait tenté de faire un bilan de l'état de nos démocraties occidentales. Vous vous en souvenez peut-être, ça commençait comme ça.
13h15, 14h, démocratie en question, Arnaud Reussen.
Aussi bien Mussolini qu'Hitler sont arrivés au pouvoir par des élections démocratiques.
La grande question qui se pose pour moi, c'est de savoir est-ce qu'on va changer le système après ou avant le crash. C'est vrai que ce n'est pas facile de réparer une voiture avec laquelle on est en train de rouler.
À l'époque, on s'était inquiété de la montée continue des populismes.
Les partis populistes ont peut-être mieux compris que travailler sur le ventre des gens, l'angoisse et l'anxiété des gens marchent.
Le populisme n'est pas la maladie de la démocratie. Le populisme est plutôt le symptôme d'une démocratie malade.
On avait aussi pointé la force, parfois démesurée, des grandes entreprises multinationales face aux États.
Vous avez dès lors un phénomène qui est bien connu, qui s'appelle la course vers le bas, qui fait que ces régimes ne peuvent survivre qu'à la condition d'être toujours en train de démanteler les propres bases sur lesquelles ils sont assises.
La plupart des multinationales, elles s'adonnent à toutes sortes de manipulations pour faire apparaître leurs profits là où ils sont peu ou pas du tout taxés, comme aux Bermudes. C'est ça l'optimisation fiscale.
On avait pris la mesure de l'emprise de plus en plus grande des géants du numérique, boulimiques de nos données.
Je pense que les États devraient absolument prendre la main. Si nous voulons que ces algorithmes servent la démocratie plutôt que de l'empêcher, tout simplement, nous devons développer une culture algorithmique.
À l'époque déjà, la question migratoire suscitait énormément de peur et ressemblait à une quadrature du cercle politique.
Aujourd'hui, vous avez un phénomène migratoire qui est tout sauf une crise, c'est-à-dire qui ne va absolument pas s'arrêter demain, mais qui va amplifier, qui va se consolider, qui va devenir de plus en plus brutal, avec des populations qui vont, face à ce phénomène, résister de plus en plus. Et en même temps, un problème quasiment insoluble si on ne commence pas à le penser ensemble, parce que bien évidemment, vous aurez beau ériger les plus grands murs que vous voulez, ces murs seront passés.
On s'était aussi arrêté sur le manque décidément criant de démocratie à l'échelle de l'Union européenne.
La plupart des citoyens, quand ils votent pour l'Europe, ont assez clairement conscience qu'en fait, ils ne savent pas très bien comment fonctionne l'Europe, qu'ils n'ont pas suivi les questions européennes. Et donc, il y a une sorte de théâtre démocratique qui ne leur échappe pas.
Bref, on avait laissé nos démocraties sur une série de constats pas franchement rassurants, en se disant que les années suivantes seraient cruciales. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce qui s'est passé durant les 3 années qui ont suivi, on ne l'avait pas vraiment vu venir.
À l'assaut des murs du Capitole. C'est de cette manière qu'a débuté l'après-midi où l'Amérique a vu le temple de sa démocratie vaciller.
Les résultats tombent au compte-goutte et la victoire du Vlaams Belang est de plus en plus claire, déclenchant des cris de joie dans la salle.
Pour le moment, c'est toujours un gouvernement fédéral en affaires courantes qui gère cette crise. Le coronavirus pourrait-il accélérer d'une manière ou d'une autre la formation d'une coalition?
La Belgique entre à son tour en confinement dès ce midi. C'est l'option la plus raisonnable, indispensable même, pour laisser au plus vite ce coronavirus derrière soi.
Les citoyens sont tenus de rester chez eux afin d'éviter un maximum de contacts en dehors de leur famille proche.
Alors, Au vu de tout ça, on a décidé de remettre le couvert, de faire en quelque sorte une saison 2 de Démocratie en question. D'aller beaucoup plus que la première fois au contact du terrain, chez les citoyens, ceux qui veulent réveiller la démocratie, mais aussi ceux qui n'y croient déjà plus. On a poussé la porte des parlements pour voir s'ils n'étaient pas endormis. On s'est penché sur le poids des lobbies et le pouvoir des Big Pharma. On a creusé la question de l'urgence climatique et le décalage entre les paroles et les actes. On s'est rendu dans les écoles, à la rencontre des citoyens de demain. Et on a même essayé de comprendre, et c'était pas simple, comment l'État s'occupe de nos données personnelles. Mais avant de vous proposer ce road movie démocratique, on avait envie de revenir en guise de prologue sur quelques temps forts des 3 ans écoulés, en retournant voir quelques-uns des grands témoins qui nous avaient accompagnés en 2018. Premier arrêt dans celle qui aime à se présenter comme la plus grande démocratie du monde et qui sort de 4 ans excessivement agitée.
We will never give up, we will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved.
Avec un Donald Trump, certes battu à la présidentielle de 2020, mais qui a quand même récolté 77 millions de voix du jamais vu pour un président sortant.
We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
Et une après-élection qui a fait vaciller comme jamais les piliers et les symboles de la démocratie américaine.
Ce qui se joue à cet instant est du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. On entend certains de ces militants tenter d'entrer dans le Capitole à coups de bélier. On les entend frapper sur la porte du Capitole. Un incendie vient d'être allumé. L'Amérique, en plein cœur de sa capitale fédérale, vit des instants inimaginables jusqu'à présent.
Ça y est, les militants trumpistes pénètrent à l'intérieur. Les policiers du Congrès n'arrivent pas à les contenir. Panique dans l'hémicycle du Sénat, en pleine séance de certification de la victoire de Joe Biden. Les agents du Secret Service tiennent en joue la porte qui va craquer. Les sénateurs et même le vice-président Mike Pence sont évacués en catastrophe. Les trumpistes ont désormais le champ libre pour des photos en forme de trophée. Celui-là s'installe au bureau de la présidente démocrate de l'Assemblée, Nancy Pelosi. Cet autre coiffe la statue du président Ford de la casquette rouge Trump. Ils laissent derrière eux des bureaux saccagés.
Alors, quel bilan tirer de 4 ans de trumpisme ? Pour y voir clair, on est retourné chez Benoît Friedman, professeur à l'ULB, philosophe du droit et observateur très attentif depuis longtemps de la démocratie américaine.
Tu peux pousser ?
Ah ok, super.
Ça pousse.
Pour lui, c'est clair. Malgré la défaite, l'épisode Trump est venu durablement déstabiliser la démocratie américaine et bien d'autres démocraties à travers le monde.
Le bilan est assez catastrophique et en plus le danger est très loin d'être terminé. Pour aller à l'essentiel, la présidence Trump a contribué à miner les démocraties occidentales au niveau mondial et à soutenir les ennemis de la démocratie et les régimes tyranniques. Ça, c'est sur le plan mondial. Sur le plan intérieur, ça s'est terminé par une sorte de coup d'État d'opérette avec la prise du Capitole, qui est la mise en cause, la contestation directe et violente de l'élection et la fin d'un transfert pacifique du pouvoir, qui est la règle d'or pour qu'une démocratie puisse subsister. Alors, pourquoi le danger n'est pas terminé alors que Trump a perdu, mais de peu, les élections ? Parce que depuis lors, il a maintenu le même discours. Il refuse toujours, il dit toujours que les élections sont truquées. Il ne rêve que de revanche. Et ce ne serait rien s'il n'avait pas avec lui le soutien de l'immense majorité des républicains, tant au niveau de l'électorat de base que au niveau des représentants à la Chambre et au Sénat, au point que ceux qui ont été envahis par les bandes armées et menacés dans leur vie nient aujourd'hui l'existence d'un tel événement et proclament à qui mieux mieux que les élections ont été truquées alors qu'ils savent parfaitement que c'est faux.
Donald Trump a, il faut le dire, secoué les piliers de la démocratie américaine. Certains ont résisté, parfois héroïquement, d'autres beaucoup moins.
Le point positif, ça a été l'attitude de la presse et des médias en général qui n'ont rien lâché pour tout ce qui concerne les médias les plus crédibles par rapport à cette politique du mensonge permanent et honté, des contradictions totales et des propos de haine. Et ça, c'est formidable que ce pouvoir ait résisté. On peut dire que les cours, le pouvoir judiciaire a bien résisté, notamment au niveau du rejet de tous les recours. Il y a eu des dizaines, peut-être des centaines de recours contre le résultat des élections présidentielles qui n'ont conduit à rien, qu'à ne reposer sur rien. Par contre, on voit que au niveau du pouvoir législatif, au niveau du pouvoir exécutif, on a des comportements qui sont extrêmement graves. Et on n'a d'ailleurs pas fini de découvrir, on est toujours en train d'enquêter sur les manœuvres qui, tant aux États-Unis qu'en Ukraine, par exemple, et ailleurs, avec la Chine, avec les Russes, ont complètement miné le régime. S'ajoute à ça un aspect politique qui est une division presque irréconciliable entre le camp républicain et le camp démocrate. Le fait que pour les uns, ce qui est vérité est pour les autres mensonge, comme le résultat des élections ou tout un tas de questions, y compris de faits sur l'épidémie, sur le climat, etc., montre qu'en fait, ils ne vivent plus dans le même monde.
Et ça, forcément, ça rend extrêmement compliqué l'exercice de la démocratie. Quand il n'y a plus ce consensus de base sur la façon d'exercer le pouvoir, d'organiser l'alternance ou de faire fonctionner les institutions, les conséquences sont lourdes.
We are fighting the fake news. It's fake, fake. No, not you, not you. Your organization's terrible. Don't be rude. No, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question. You are fake news. Go ahead.
Sans oublier l'atteinte majeure au symbole de la démocratie américaine.
On pourrait se dire ce qui est symbolique n'a pas d'importance. Mais le monde symbolique est plus important que ce que l'on croit. La démocratie est dans une large mesure repose sur des institutions symboliques. Ce sont des mots, des croyances communes, etc. À partir du moment où il est porté atteinte à ces symboles comme une prise en armes du Capitole, à ce moment-là, l'histoire montre que cela produit des effets durables et que, au fond, on n'a plus une sorte de respect qui nous empêche d'aller plus loin encore et effectivement d'instaurer une forme de dictature aux États-Unis. Même si Trump disparaissait, le courant qu'il a réussi à rassembler ne disparaîtrait pas, à mon avis, et pourrait se trouver assez facilement un nouveau leader, sachant que les candidats se pressent pour incarner cette ligne ultra dangereuse, ultra dure, qui est véritablement, me fait penser au fascisme, et qui, en tout cas, présente les mêmes dangers que cette idéologie-là.
Mais entre-temps, un nouveau président s'est installé à la Maison-Blanche, le démocrate Joe Biden, au terme d'une élection qui a mobilisé les Américains à un point jamais vu depuis 120 ans.
Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people has been heard. And the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed.
Joe Biden arrivait avec l'ambition de réconcilier l'Amérique, d'y remettre un peu plus de justice sociale et fiscale, de couper les racines du trumpisme. Mais peut-il y parvenir ?
Lui veut restaurer la social-démocratie, ce qui est à la fois ce que lui demande l'électorat démocrate et ce qui, selon son jugement, et on fait la même analyse en Europe, explique la radicalisation de l'électorat Trump, qui est composé en grande partie de gens pauvres ou de la classe moyenne. Et donc, son programme, c'est cela, mais c'est extrêmement difficile. On a un exemple dont s'inspire Biden. Il a mis dans son bureau la photo de Roosevelt. Or, Roosevelt, c'est le New Deal, c'est-à-dire l'idée d'instituer, de créer la social-démocratie aux États-Unis. Et ça a été terriblement difficile pour Roosevelt d'y parvenir. Et Roosevelt, il avait une très grosse majorité dans les deux chambres. Biden ne l'a pas. Il a une très courte majorité et peut-être demain n'aura plus de majorité du tout. Donc ses chances d'aboutir sont jugées par les experts comme faibles.
En tout cas, pour Benoît Friedman, les deux scrutins prochains aux États-Unis seront absolument déterminants.
La logique, c'est que le pouvoir en place perd les élections intermédiaires, donc on aurait de nouveau un Parlement républicain, on a vu ce que ça a donné, et on préparerait alors la grande élection de 2024, qui est une... Il ne faut pas dramatiser, mais qui est quand même une question de vie ou de mort pour le régime américain actuel.
La première. Démocratie en question. Arnaud Reussen.
Laissons là les États-Unis, où l'on comprend bien que le moment Trump n'était pas seulement une parenthèse, mais la face visible d'une crise profonde dont il est bien difficile de voir la sortie aujourd'hui. Et chez nous, alors, en Belgique. On l'a déjà presque oublié, mais on vient de vivre à nouveau une crise politique majeure, avec une fois de plus, une interminable formation de gouvernement.
La Belgique est presque finie, la Belgique à papa c'est fini, ça ne fonctionne plus, mais pour l'instant ils ne sont pas capables d'accepter cette réalité.
C'est parfaitement clair que entre le PS et la NVA, il n'y a rien en commun, ça ne peut pas marcher.
Ce qu'il faut c'est travailler avant de critiquer, surtout proposer et venir aux réunions quand on invite. Je pense qu'aujourd'hui on est vraiment dans un système qui est un peu fou, c'est qu'il y a toute une série de partis qui demandent des notes d'accord avant de venir à la réunion. Donc il faut un accord pour venir négocier un accord.
On peut trouver une alliance de partis qui veulent donner un avenir au pays. Il y a encore moyen. Ce sera difficile, mais il y a moyen.
Comment avez-vous décidé qui serait Premier ministre ?
Non, on ne savait pas comment choisir. Alors on a tiré à pile ou face et c'est tombé sur Alexander, mais c'est un excellent choix.
On peut même se demander si sans la crise sanitaire, on serait même parvenu à former ce gouvernement. Alors pour comprendre, on est retourné voir d'abord un des observateurs les plus attentifs de la vie politique en Belgique, le professeur de philosophie politique de l'ULB, Vincent de Corbitaire.
Ça me paraît mieux, ça vaut...
Non, je crois que ça va aller. Non,
je peux prendre mon ton plus professoral.
Qui commence par nous rappeler à quel point former des gouvernements en Belgique, c'est devenu compliqué.
Les chiffres sont là, sans vouloir être trop précis, 494 jours pour le gouvernement fédéral, sans négocier une réforme de l'État. Le précédent épisode le plus long, 540, on avait négocié une réforme de l'État, ce qui prend des mois et des mois. 3 mois et demi pour former un gouvernement en région wallonne, record largement battu, plus de 4 mois pour le gouvernement flamand. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y a plus de parti dominant. On doit cesser, je me permets de le dire, d'utiliser un petit peu paresseusement dans le commentaire politique l'expression de grand parti. On a beaucoup dit leur difficulté pour former le gouvernement fédéral, c'est que les deux grands partis dans leurs communautés respectives sont aux antipodes, NVA et PS. Mais ce ne sont pas des grands partis. 26% pour l'un et pour l'autre dans leur région de meilleure implantation. 26%, un peu plus d'un quart. Si ça avait été des grands partis, ils auraient été tous les deux incontournables. Et dès le début, on aurait vu PS et NVA négocier ensemble pour voir que peut-on faire et avec qui va-t-on le faire. On a eu des mois et des mois à se demander si on prenait ou pas la NVA, parce qu'elle n'était arithmétiquement pas du tout indispensable, à la différence des scrutins précédents. Et il y a eu même un épisode qui n'a pas duré deux petites semaines, pendant laquelle les libéraux ont repris de facto l'initiative des négociations en développant l'hypothèse d'un gouvernement sans le PS. C'est parce que tous les partis traditionnels sont fortement affaiblis.
Les partis traditionnels, c'était longtemps en Belgique essentiellement trois courants, socialistes, libéraux et socio-chrétiens. Mais ça, c'était avant.
Jusqu'en 1987 inclus, à la Chambre, chez nous, les trois partis traditionnels, les trois tendances traditionnelles, francophones et flamandes, obtenaient encore 79% des voix en 1987. Aux élections de 2019, on est à 45%.
Donc, plus moyen de former des majorités au départ de ces trois familles aujourd'hui. Et ça, ça s'explique principalement par l'émergence de nouveaux enjeux durant ces dernières décennies.
Il y a trois grandes autres tendances qui sont nées dans la plupart des pays démocratiques. Environnementalistes, écologistes, populistes de droite, nationalistes, hostiles à l'immigration, à la mondialisation, à l'ouverture des frontières, aux droits des minorités. Et dans pas mal de pays, en Belgique on le voit clairement depuis quelques années, une résurgence d'une gauche radicale, pas forcément communiste au sens traditionnel du terme, quoique parfois, mais qui est nettement plus à gauche que les partis sociaux-démocrates qui sont en difficulté. En Belgique, c'est devenu spectaculaire.
Quelques chiffres pour le mesurer. Jusqu'en 2014, le PTB n'avait pas un seul député fédéral et il en compte aujourd'hui 12. Certains sondages placent d'ailleurs le PTB premier parti de Wallonie. Les écologistes, eux, font le yo-yo d'élection en élection, mais occupent aujourd'hui 21 sièges sur 150 à la Chambre. Et puis en Flandre, si vous additionnez les scores de la droite nationaliste N-VA et de l'extrême droite xénophobe du Vlaams Belang, aux dernières élections, ça représente 42% de l'électorat. Signe d'une société de plus en plus divisée entre de multiples clivages.
On doit dire non à la migration irrégulière, illégale. On doit être plus fort et plus strict sur ça.
Les gens en ont marre et ils comptent voir aujourd'hui un grand changement dans la rue, un grand changement dans la mobilisation, mais aussi dans ce Parlement.
Ce ne sont pas les partis qui créent les clivages, ce sont les clivages qui créent les partis, qui les suscitent, et les électeurs se positionnent sur les priorités qui sont les leurs. Et il est normal qu'ils choisissent un parti qui est relativement radical sur un enjeu, si pour eux, c'est l'enjeu le plus vital. J'ai coutume de dire que notre problème, c'est qu'aujourd'hui, le bulletin de vote, c'est devenu un instrument d'une pauvreté insigne, qui est en fait dépassé par les faits.
Tiens. Voilà qui me rappelle les discussions d'il y a 3 ans pour la première mouture de la série « Démocratie en question » avec David Van Reybrouck, l'écrivain flamand qui régulièrement formule des propositions créatives pour tenter de revitaliser nos démocraties. Eh bien, je suis allé le revoir pour savoir comment lui explique cette interminable crise politique belge.
La difficulté de former un gouvernement est complètement liée à la logique du système électoral. Ce système, depuis l'émergence des médias sociaux, a connu un état fiévreux presque permanent. Tout a changé. Avant, les citoyens se taisaient. Maintenant, dès qu'il y a Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et que sais-je, on voit qu'il y a une espèce de culture de feedback permanent qui a rendu le mandat d'un élu beaucoup plus fragile qu'avant. Si aujourd'hui tu gagnes les élections, le dimanche, le lundi, tu dois déjà recommencer ta campagne, en quelque sorte. Parce que voilà, ça bouge sur Twitter. Et c'est très 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 différent par rapport à ce qu'on connaissait avant. Avant, il y avait la presse. Bon, la presse, c'était une élite qui parlait à une élite. Maintenant, il y a tout le monde qui se mêle dans le débat, avec une violence, avec une visibilité. La campagne électorale est devenue permanente. Ça veut dire que former un gouvernement ne jouait plus de ce calme qu'on avait avant. Si on lit la mémoire d'un premier Eyskens, par exemple, père, ben lui, le dimanche après-midi, après les élections, il donnait quelques coups de fil à ses collègues des autres partis politiques. Un accord gouvernemental consistait d'une dizaine de pages écrites, alors que maintenant, quelques coups de fil ne suffisent pas, et quelques dizaines de pages ne suffisent pas, c'est de centaines de pages. La méfiance entre les partis politiques se traduit dans des accords de gouvernement qui sont vraiment, mais sont des encyclopédies. Tu peux tuer un paysan avec. Parce que la méfiance est telle qu'il faut absolument boulonner tout dans cet accord gouvernemental.
La méfiance, la campagne électorale permanente. David Van Reybrouck ajoute encore cette réflexion.
Avant, on tenait des élections pour former un gouvernement. Maintenant, on n'arrive plus à former un gouvernement par peur des prochaines élections. Les élections suivantes sont devenues plus importantes que les élections précédentes. Les élections qu'on n'a toujours pas eues ont un impact plus grand que les élections qu'on vient d'avoir. Et donc, ça change la donne.
Mais comment faire alors ? Dans cette géographie des clivages politiques de plus en plus complexes, avec en plus ce climat de campagne permanente, comment arriver encore à trouver des compromis et à former des gouvernements ?
Il va falloir trouver des moyens pour aller plus vite. L'Espagne, par exemple, je pense que dans les 3 mois, il doit former un gouvernement. Mais moi, je pense qu'il y a une solution assez simple, c'est de diminuer les dotations pour les partis politiques tant qu'il n'y a pas de gouvernement. C'est un peu cruel, mais ce qu'on fait aussi avec les chômeurs, donc diminuer dans le temps les allocations des partis politiques. Déjà, je trouve qu'il y a un problème fondamental avec le financement des partis politiques. Ils reçoivent beaucoup trop. Je pense que c'est le seul thème dans le Parlement sur laquelle tous les partis politiques sont d'accord, c'est l'augmentation des dotations des partis politiques. Je commence à trouver ça extrêmement problématique avec un parti comme la NVA qui ne sait pas quoi faire de tout son argent, qui l'investit dans l'immobilier pour avoir des revenus pour des années à venir. Mais où est l'équilibre dans tout ça ? Bien sûr, il faut financer nos partis politiques parce qu'ils jouent un rôle important. Mais donnons aux partis politiques un financement de base, un socle pour tous les partis politiques qui ont fait le seuil de 5% de vote. Et puis, en fonction de leur réussite, en fonction de leur score, une partie qui serait variable. Mais maintenant, 100% de leur dotation est variable en fonction de leur score électoral. Alors voilà, ça veut dire que les élections ne sont pas seulement le grand tournement de pouvoir, c'est aussi les grands tombolas des financements des partis politiques. Donc il s'agit du pouvoir et de l'argent à la fois. Et ça montre à quel point c'est devenu important de gagner les élections à tout prix, même en faisant des promesses complètement intenables. Et ces grandes promesses, malheureusement, deviennent très difficiles à réconcilier une fois qu'un gouvernement doit être formé. Donc nous avons un système de financement qui stimule, et c'est vraiment ça, qui stimule les promesses intenables avant les élections et la formation d'un gouvernement impossible après les élections.
J'ai envie de retourner soumettre cette idée d'une dotation dégressive en fonction du temps qui passe à Vincent de Corbitaire. Il en pense quoi, lui, de cette pression via le portefeuille des partis ?
Pourquoi pas diminuer la dotation au fur et à mesure que le temps passe, ça va forcément accélérer normalement la passation de compromis. Ce serait utile pour ne pas perdre de temps. Il faudrait éviter que ça conduise à des compromis pris dans l'âtre et boiteux et qui obligent à renégocier. On pourrait imaginer des procédés plus drastiques qui seraient d'imposer une limite très très courte, quelques semaines, en se disant qu'après tout, il n'est pas obligatoire de rester dans le modèle belge, mais qu'on pratique aussi aux Pays-Bas par exemple, et dans d'autres pays, à savoir qu'au fond, on ne passe pas tellement de temps peut-être à former le gouvernement au sens de savoir qui va gouverner ensemble, mais à préparer la base de toutes les lois, de toutes les décisions, en négociant point par point, de manière parfois très détaillée, surtout quand les sujets sont délicats, suscitent des tensions. On pourrait se dire que cette négociation pourrait se faire pour une bonne part après. Donc, je pense qu'il y a une réflexion à avoir, effectivement, pour contraindre les partis à aller plus vite, ne pas perdre, peut-être de manière en partie inutile, du temps. Cela étant, tout ça ne règle pas le problème de fond. Et le problème de fond, sur le papier, il est insoluble, parce qu'on envoie aux partis une injonction paradoxale, deux exigences. Ne trahissez pas vos promesses. Et puis, il y a cette autre injonction qui est une obligation incontournable, puisque vous êtes plusieurs dans un gouvernement, passez des compromis. Mais passer un compromis, c'est trahir ses engagements, forcément. C'est mettre de l'eau dans son vin, comme on dit familièrement. Donc là, je ne vois pas quel mécanisme formel règle ce problème, qui est un problème, encore une fois, ancré dans la réalité que nous évoquions. Et donc, c'est le réel qui résiste.
C'est le réel qui résiste. Et sur les 10 dernières années, la Belgique s'est retrouvée pendant plus de 3 ans et demi sans gouvernement de plein exercice. Et rien ne laisse présager que ça puisse changer la prochaine fois. Le réel, c'est aussi l'inattendu, quand un virus vient tout à coup rappeler que nos sociétés sont bien plus fragiles qu'on ne le croit.
Voici à quoi ressemble Wuhan aujourd'hui. Une immense ville fantôme.
Ce matin, la ministre de la Santé monte au créneau. Preuve que l'épidémie de coronavirus est prise très au sérieux. La Belgique est aujourd'hui touchée.
Les cloches des églises sonnent le glas une fois par jour. Un glas collectif pour annoncer tous les morts des dernières 24 heures. Car cette semaine, uniquement dans le centre historique de Bergame, on dénombre près de 200 décès.
Il faut que ça passe, le virus, le plus vite possible. Et moi, j'ai un mauvais âge. Je vais avoir 76 ans.
Les citoyens sont tenus de rester chez eux afin d'éviter un maximum de contacts en dehors de leur famille proche.
C'est le premier jour de confinement chez nous. Cette journée particulière a commencé ce midi. Cela va donc durer jusqu'au 5 avril.
Sur tous les continents, on le voit, les mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus sont renforcées. Chez nous, depuis 15 heures, c'est le retour des contrôles aux postes frontières.
Qui aurait cru qu'un virus apparu en Chine à la toute fin de l'année 2019 puisse nous contraindre un peu plus de 3 mois plus tard à fermer des écoles, à obliger les gens à se confiner chez eux, à fermer des frontières, bref, à brider très fortement nos libertés individuelles.
Il est important de conserver une distance raisonnable entre les individus. Et tous les rassemblements sont interdits.
Les gouvernements, à qui souvent on reproche un manque de prise sur le réel, une soumission au pouvoir de l'argent, se sont retrouvés, au printemps 2020, à prendre des mesures très dures, à mettre en partie à l'arrêt le monde économique, à dépenser sans compter pour protéger des vies humaines. Et rétrospectivement, la chercheuse au CRISP Caroline Sagesser dresse un bilan plutôt positif des décisions prises.
L'État a pris sa responsabilité, les gouvernements ont été efficaces et finalement, rétrospectivement, ils ont été efficaces plutôt rapidement. Et comme vous venez de le dire, ils ont privilégié la sauvegarde de la santé publique au détriment peut-être effectivement du maintien de l'activité économique. Donc oui, ça a été une décision politique globalement prise rapidement, prise de façon efficace. Mais évidemment, le corollaire, ça a été une mise entre parenthèses des mécanismes normaux de la démocratie. Et au fur et à mesure que la crise a duré, on a de plus en plus constaté effectivement qu'on était finalement, si pas face à une dérive autoritaire, en tout cas à des gouvernements qui agissaient avec des pouvoirs dont on avait oublié qu'ils étaient dotés. Je crois qu'on a tous été surpris de constater, je prends le cas de la Belgique, que le puis la ministre de l'Intérieur avait de telles compétences en matière de police administrative que de simples arrêtés ministériels pouvaient avoir un impact aussi important sur notre vie quotidienne. Je pense évidemment à la limitation des contacts sociaux ou au couvre-feu, par exemple. Nous avions oublié fondamentalement, je crois, que l'État avait ce pouvoir-là.
Malgré cela, dans le branle-bas de combat général du début de crise, l'élan de mobilisation solidaire paraît pratiquement unanime. Les Belges serrent les dents, se serrent les coudes et respectent largement les mesures en se réinventant une vie confinée.
École à domicile, télétravail, le quotidien des Belges est bouleversé.
Derrière sa machine à coudre, Bernadette confectionne des masques pour les policiers d'Odergem. Le bureau de police a posté une annonce. Il en faut 120 pour aider ses hommes mobilisés sur le terrain.
Si on est 10 à en faire, ça fait 500 par jour et c'est plutôt pas mal, quoi.
Je suis à la maison depuis lundi et j'envoie des dessins aux personnes âgées.
Oh, c'est gentil, s'il vous plaît. Oh, c'est beau. Mais je suis très contente. Merci.
Mais au fil de la crise qui dure, le consensus social va progressivement se lézarder.
On peut comprendre qu'une certaine forme de lassitude s'installe quand des dispositions limitant la liberté des gens s'installent dans la durée. Donc une crise sanitaire de 3 mois, on peut comprendre des mesures extrêmes. Quand ça dure 15 mois, ça devient un peu plus difficile à supporter. Et puis, s'agissant en particulier du cas de la Belgique, il y a eu, je crois, dans la gestion de la crise, des maladresses. Il y en a eu plusieurs, je ne sais pas s'il faut toutes les énumérer, mais bon, on peut dire qu'il y a eu un défaut de prévoyance pour anticiper la deuxième vague. Et puis ensuite, dans les mesures qui ont été prises, il y a ce côté un peu répétitif du scénario. D'abord, Conseil national de sécurité, puis comité de concertation, avec ensuite la présentation des mesures. Des mesures qui ont pu apparaître, si on les compare à celles en vigueur dans certains États voisins, comme particulièrement tatillonnes, particulièrement intrusives de la vie privée, privée et aussi peut-être particulièrement mal communiquée. Il y a eu, je crois que tout le monde s'accorde là-dessus, un déficit de communication dans la façon dont les mesures ont été portées à la connaissance de la population. Donc effectivement, on a lassé par la durée de la crise et par la répétition de certains scénarios qui finissaient effectivement par être fatigants et un peu décourageants.
Ce qu'on demande n'est pas facile. Je comprends et ça nous complique notre vie. Et je sais que ça dure longtemps. Et ça dure, je sais que beaucoup d'entre nous en ont assez.
Il faut dire aussi, comme le faisait remarquer l'écrivain David Van Riebroeck, que les dirigeants ont pâti d'une méfiance qui s'était installée bien avant le début de cette crise.
Si tu es un écolier et à l'école, il y a un prof qui n'est pas trop sympa, et ce prof-là, tout d'un coup, il y a un incendie qui va imposer des mesures draconiques, il sera encore moins populaire. C'est vraiment ce qui se passe maintenant. L'amour, la confiance dans notre système politique, dans notre gouvernement, n'était déjà plus à son apogée, il faut être honnête. La Belgique notait déjà une des taux de méfiance la plus importante en Europe. Et ça n'a pas, la crise n'a pas augmenté l'enthousiasme pour la politique belge.
Mais reste une question qui s'est de plus en plus posée au fil des derniers mois. A-t-elle été démocratique, cette gestion de crise, avec des mesures parfois très restrictives de nos libertés, décrétées à coups d'arrêtés ministériels, rédigées à la hâte au sortir de comités de concertation ? Allons poser la question au juriste Benoît Friedman.
Bien entendu qu'une société n'est faite que de règles qui limitent les libertés. Je pense que de ce point de vue-là, dire que prendre des mesures restrictives face à une maladie contagieuse aux conséquences considérables serait antidémocratique, je crois que cette thèse est complètement fausse et elle montre le développement d'une morale qui est égoïste, ultra-individualiste, qui est très difficile à rendre compatible non seulement avec la démocratie, mais avec toute forme de vie en société. D'un autre côté, si on pense à la gestion démocratique de la pandémie comme respect des règles et des procédures pour prendre des mesures de limitation de liberté, là, effectivement, on doit constater en Belgique que les règles et procédures n'ont pas du tout été prises normalement. En réalité, non pas pour des raisons de volonté dictatoriale, mais par un phénomène qui ne remonte pas à la pandémie, qui est très installé en Belgique, que les politiques appellent d'un euphémisme incroyable l'estompement de la norme et qui en réalité n'est rien d'autre que le mépris profond du droit. Les hommes politiques ou les femmes politiques, d'une part, disent aux citoyens qu'ils doivent absolument respecter les règles, mais par contre, dans leur culture la plus profonde, ils n'ont absolument pas l'idée que eux devraient respecter les règles, y compris fixées par la Constitution. On prend par des arrêtés de gouverneurs, de bourgmestres, d'un ministre, des décisions qui portent atteinte aux libertés des gens. Ils n'ont pas ce pouvoir. Et donc, le fait de mal faire la règle, de la faire à un mauvais niveau, envoie évidemment un très mauvais signal, parce que vous ne pouvez pas à la fois demander aux gens de respecter des règles très dures et vous-même vous affranchir systématiquement de règles en réalité beaucoup moins difficiles à respecter que vous méprisez et dont vous ne comprenez pas même le sens.
Et d'ailleurs, selon Caroline Sagesser, il faudra absolument réfléchir à cet enjeu en perspective d'autres crises futures et pas forcément sanitaires.
La pandémie, c'est précisément les circonstances que tout un chacun va estimer raisonnables pour prendre des mesures extrêmes. C'est par ailleurs, une pandémie, quelque chose qui peut être mesurable par des chiffres, par des avis d'experts, qui se mesurent également aux recommandations de l'OMS. Donc là, il y a un cadre finalement qui est assez évident pour tout un chacun, sur lequel on peut appuyer la justification de ces mesures fondamentalement liberticides. Dans le cas d'une crise d'une autre nature, comme peut-être une crise issue d'une menace sécuritaire ou terroriste, on n'aurait pas ces indicateurs très clairs. Et on serait quand même dans une situation où le gouvernement aurait la latitude, le pouvoir de prendre des mesures telles qu'il les a prises. Donc ça, je pense que ça pose question.
Et des questions, justement, on en a plein à creuser dans cette série. Et c'est ce qu'on va faire tout au long de cet été en vous emmenant dans une sorte de road movie démocratique. Nous irons à la rencontre de ceux qui n'y croit plus.
Dégageons ces individus, coup de balai chez les vendus.
Tenter de comprendre les raisons profondes de la crise de confiance bien avant la pandémie. On s'intéressera aux oubliés de la démocratie, ceux qui ne se sentent pas entendus, pas écoutés et pas pris en compte dans toute une série de décisions.
Qu'est-ce qu'on comprend ?
Rien.
Tu ne sais même pas si tu as droit ou pas à quelque chose.
Nous pousserons aussi la porte des parlements pour voir s'ils ne se sont pas assoupis.
Alors, on nous demande si on s'est endormi pendant cette crise.
Alors, je ne crois pas qu'on se soit endormi, non. On a eu énormément de travail.
On s'intéressera aussi à des acteurs que l'on a beaucoup vus au devant de la scène durant cette crise, les géants de l'industrie pharmaceutique et à leur force de lobbying.
On parle de minimum 36 millions d'euros par an pour le lobby auprès de la Commission européenne et de ses différents décideurs.
On essayera de s'y retrouver dans la façon dont l'État gère nos données personnelles.
On vous présente comme une forme de grand méchant loup, je ne sais pas, Big Brother.
Même les gens qui sont le plus critiques n'ont jamais appelé un grand méchant loup, ça je ne crois pas.
On se penchera bien sûr sur l'immense défi de l'urgence climatique et les questions qu'elle pose à nos démocraties.
On a des rapports comme ça sur en 2050 si on n'a pas réussi à endiguer, et cela il vous empêche de dormir.
Oui, ça m'arrive, ouais. Et je suis pas le seul, hein.
Et enfin, on fera un détour par l'école à la rencontre des citoyens de demain.
En fait, le principe du Parlement, c'était que tout le monde donnait son avis, tout le monde avait un droit de vote. Il n'y a pas une personne qui était plus importante qu'une autre ou quoi que ce soit.
Bref, on s'est dit qu'on allait vous faire voyager à travers toute une série de lieux où la démocratie est questionnée, où elle se réinvente aussi parfois, en essayant de mettre le doigt sur les problèmes, sur les menaces, mais en regardant aussi du côté des pistes de solutions. Démocratie en question, une série écrite par Arnaud Reussen, réalisée par Jonathan Remy, avec le soutien du Fonds pour le journalisme. Tous les épisodes sont à retrouver sur RTBF Ovio ainsi que sur toutes les plateformes de téléchargement.